Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepeinteur du blog Ma Belle Santé. Expondi Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience. Que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici, dans Les Résilientes, nous croyons à la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspirée, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une nouvelle personne inspirante qui a traversé le défi de la fibromyalgie, mais pas que. Une condition qui a redéfini sa vie de multiples façons. Et elle a décidé de transformer cette expérience en une mission. Et aujourd'hui, elle partage son parcours et son expertise pour aider ceux et celles qui font face à des défis similaires. Bienvenue Nadège dans Les Résilientes.
Merci, waouh, super présentation, merci.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas?
Oui, bien sûr, donc effectivement, Nadège. Avant toute chose, je suis maman de deux petits garçons qui réinterviendront un petit peu plus tard, tu verras dans tout le chemin dont on va parler. Donc effectivement, j'ai traversé cette fibromyalgie pendant plus de 10 ans. Ce qui m'a amenée à ma mission de vie, à savoir accompagnante au soulagement. Alors, principalement focalisée fibromyalgie sur lequel j'ai une expertise hein, concrètement aujourd'hui, et puis avec une ouverture sur la douleur chronique. Donc l'accompagnement au soulagement pour amener les gens à traverser, tel que tu viens de le dire, effectivement, la souffrance liée à la douleur chronique. Et tout ce que ça entraîne, hein, l'épuisement, les troubles du sommeil, les atteintes intestinales, etc. Enfin, le champ est large et c'est bien pour ça qu'il fallait créer quelque chose dans le parcours de soins qui puisse intervenir un petit peu différemment.
Oui, en tout cas, c'est très, très beau ce que tu as monté aujourd'hui et c'est très aidant parce que malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont touchées par cette pathologie. Même beaucoup qui sont en errance, qui ne savent pas du tout qu'elles sont, en tout cas, qu'elles cohabitent avec ce type de maladie.
Oui, ça fait d'ailleurs partie de la maladie aujourd'hui.
Et oui, c'est ça.
L'errance.
Est-ce que tu peux juste m'expliquer qui tu étais vraiment avant, on va dire, tes défis de santé?
Alors, mes défis de santé, ça remonte un petit peu à loin le qui j'étais avant. Qui j'étais avant de tomber vraiment malade, j'étais lycéenne, puisque j'ai commencé vraiment un parcours de santé compliqué à 17 ans. Donc avant, une lycéenne relativement classique, mais avec quand même, tu sais, souvent des fractures, souvent des entorses, quand même, tu vois, voilà, au niveau un petit peu articulaire. Mais ce qui s'est passé à mes 17 ans, c'est une grave forme de mononucléose. Donc j'ai même été déscolarisée pendant 4 mois pour ça. J'ai vraiment été fortement touchée et j'ai fait des rechutes mononucléiques pendant 7 ans. Donc ça a été un premier épisode très très long, sur lequel aujourd'hui, je te dirais pas que j'ai fait une évolution ni dans mon approche santé, ni dans ma spiritualité, peut-être même pas tellement dans ma philosophie de vie, pas à cette époque-là. J'étais plus dans la lutte, dans le désir d'obtenir mes diplômes quand même, dans le désir de répondre à mes ambitions de carrière. Voilà, j'étais là-dedans à cette époque-là. Donc, plus sur de la lutte quand même que sur autre chose. Et puis, ben, je mène mes études, je combats cette mononucléose. Je m'expatrie, je pars vivre en Océanie. Et en Océanie, je tombe malade, tremblement, douleur articulaire très forte, beaucoup de difficultés à plier les doigts, des douleurs très fortes comme ça qui arrivent, des troubles du sommeil qui s'installent, etc. etc. Maladie de Lyme. Donc, deuxième épisode compliqué. Oui. Pour le coup, vraiment compliqué. Donc, je fais partie des personnes qui ont contracté Lyme sans érythème cutané. Donc, on ne l'a pas vu s'installer. Bon, faut savoir que ça représente à peu près, je crois, de mémoire, 30% des cas, ce qui n'est pas négligeable finalement. Donc, ce qu'on m'a expliqué à l'époque, c'est qu'il y a ce pourcentage de malades qui ne développent pas l'érythème et on passe un petit peu au travers des mailles au départ, ça laisse l'opportunité à la bactérie de s'installer. Ou alors, le plus classique, c'est d'être mordu dans les cheveux. Ça se voit moins. Et bah, le piège, surtout avec des cheveux longs, c'est on passe un coup de brosse et si on a le malheur d'arracher la tique, c'est là où en fait elle va baver et c'est sa salive qui contient. Donc, je me positionne sur un des deux. Voilà. Donc, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Donc, retour en France, on comprend Lyme, on m'hospitalise aux maladies infectieuses. Je rentrais d'expatriation en plus, hein, donc voilà. Parce que Lyme, c'est très particulier. Lyme a une souche par continent. Donc, ne sachant pas si j'avais un Lyme européen, océanien, enfin, tu vois, on a un petit peu jonglé dans tout ça, mais une super prise en charge aux maladies infectieuses à Lyon, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, là, ma vie est un peu en parenthèse. Hein. C'est-à-dire que là, je rentre d'expat, j'ai obtenu mes diplômes, hein, j'ai commencé ma carrière professionnelle, mais je n'avais plus de situation professionnelle du fait de mon retour, tout ça. Je ne cherche même pas, en fait. À ce moment-là, c'est Lyme, vraiment. Et au fil des examens, on se rend compte que mon sang démontre que Lyme recule, que la bactérie est de moins en moins présente. Donc, j'ai traversé les trois stades de Lyme, ne sachant pas que j'étais malade, j'ai traversé les trois stades. Mais pour autant, mon corps a réussi quand même à reprendre le dessus et dans mon sang, c'était net, c'était flagrant, Lyme reculait. Pourtant, je garde mes symptômes de douleur, d'épuisement, de tremblement. J'ai développé beaucoup de tremblements. Une difficulté à supporter, tu sais, ne serait-ce que me démaquiller. J'avais les pommettes extrêmement douloureuses, j'avais les arcades et tout. C'était, voilà, au niveau visage, crâne, tout ça. Et c'est là qu'on se demande, est-ce que ce serait pas une fibromyalgie? Alors, le côté pratique dans ma situation, c'est que, pardon, je suis déjà dans un contexte hospitalier, donc il y a tout autour de moi pour réduire l'errance médicale qu'on connaît par rapport au diagnostic de fibromyalgie.
Eh oui, c'est ça.
Donc, je rentre dans le parcours de contre-diagnostic. Est-ce que tu connais ce parcours qu'on utilise pour la fibromyalgie? On va un petit peu aller enlever tout ce qui potentiellement ressemble énormément. Donc, sclérose en plaques, on va aller regarder, on peut aller regarder en tout cas ta thyroïde, on peut aller regarder la leucémie, on peut aller, tout ce que tes symptômes évoquent, on va essayer d'éliminer. Et si tu si t'élimines, 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 au bout d'un moment, si tu réponds aux zones de douleur de Yunus et aux troubles du sommeil, tu as une fibromyalgie. C'est ce qui implique l'errance médicale. On n'a pas un diagnostic clair pour dire on va faire tel, tel, tel examen si c'est positif, comme ça existe pour d'autres pathologies. Enfin, malheureusement, aujourd'hui, on n'en dispose pas. Donc, je rentre dans tout ce circuit-là et ça me prend 8 mois. 8 mois pour avoir ce terme de fibromyalgie. Et c'est cette maladie-là qui va me faire switcher moi en termes de avant-après.
Et comment tu réagis face au diagnostic? Parce que tu as quand même vécu une sacrée. C'était quand même assez compliqué ton parcours de santé depuis quand même tes 17 ans.
Ouais, ça surprend toujours tout le monde. Je te cache pas. Je te cache pas. Alors, le diagnostic a été dur à entendre. Alors, tout d'abord, je connaissais pas la fibromyalgie. Avant qu'on me le suggère, j'avais aucune idée de l'existence de cette maladie-là. Si me permets de le rappeler aujourd'hui, est classée syndrome en France, pas maladie. Mais je ne connaissais pas la fibromyalgie à cette époque-là, donc je me renseigne. C'est ce que j'avais fait pour la mononucléose, c'est ce que j'avais fait pour Lyme. Il faut que je sache. C'est dans mon for intérieur où je sache ce qui est en train de se passer pour moi. Je me renseigne et c'était pas hyper réjouissant. Et les médecins qui m'ont mise sur la piste de la fibromyalgie ont voulu me préparer. C'était pas leur spécialité. Ils m'ont dit des choses qui ont été très très dures que je vais te répéter, mais c'est ce que je dis toujours dans les conférences. Il n'y avait pas de méchanceté en fait. Ils n'ont pas cherché à être méchants. Ils ont cherché à me prévenir. C'était plus de la désinformation, en fait, qu'autre chose. Je te fais le tableau. Quand ils m'ont expliqué que j'avais la fibromyalgie, ils m'ont expliqué que c'était une maladie de femmes ménopausées. On a eu cette croyance pendant longtemps que le jeu d'hormones provoquait potentiellement que, lié à la ménopause. D'ailleurs, il y a une grosse différence entre la population masculine et féminine au sein de la fibromyalgie. Sauf que moi, j'avais 28 ans. Donc on me dit, ben, on va faire des examens parce que vous devez être en ménopause précoce. Donc madame, vous ne ferez pas d'enfant. À côté de ça, les zones de Yunus, ce sont 18 points d'acupression d'accord, sur le corps, dispatchés. Si on en a 11 qui sont anormalement douloureux, on peut partir sur l'hypothèse d'une fibromyalgie. J'en avais 16, avec énormément de réveils nocturnes. Donc là, on me met tout de suite l'appellation de fibromyalgie sévère. Donc, deuxième information des médecins, dans l'état où vous êtes à 28 ans, attendez-vous à ce que dans 1 an, 2 ans, vous soyez en fauteuil. Il va falloir commencer à vous préparer. Et pour finir, n'étant pas une maladie mais un syndrome, la prise en charge est extrêmement compliquée. Votre vie professionnelle est très compromise. Ça s'annonce pas radieux, quoi. Et là, j'ai fait waouh,
Ah
ok.
oui.
C'est-à-dire que moi, j'avais des projets en fait. Moi, j'avais des ambitions. Je voulais ma famille, je voulais une carrière. À l'époque, je sortais d'école de commerce. Je rêvais d'une carrière de marketing dans une multinationale. C'était, enfin, là, ça se casse la figure. L'annonce elle-même, là, ça se casse la figure pour moi.
Émotionnellement, comment, qu'est-ce qui se passe en toi?
Je rentre dans de la peur, je rentre dans de la tristesse. Comme on l'a évoqué, je sortais déjà de périodes assez compliquées. J'avais connu la déscolarisation pour ma santé, j'avais connu la perte amicale aussi, hein, parce que j'étais lycéenne, hein, ne l'oublie pas, donc c'était très important pour moi à l'époque. J'avais perdu ce cercle social, tout ça. Enfin, je me voyais repartir en fait dans ces schémas-là. Et puis, ben, la projection de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors, avec du recul, bien sûr, je me dis si je n'avais pas pu, il y a d'autres voies, tu vois. Mais sur le moment, non, je le vis pas comme ça. Il va me falloir plusieurs mois pour me dire, allez, ok, on va trouver une réaction là, on va faire quelque chose.
Et dans ton parcours, là, quels sont les moments clés, justement, qui t'a amené à te libérer, parce qu'aujourd'hui, tu en es libérée de cette fibromyalgie. Quelles ont
En
été les
réalité, ouais.
étapes?
Alors, elles ont été assez nombreuses. Il y a eu des retours en arrière. Il y a eu des jolis moments aussi, puis des moments très, très durs. La première chose qui s'est passée, c'est quand il y a eu cette annonce par les premiers médecins, j'ai été adressée à un grand nom français de la médecine de la fibromyalgie à Lyon, toujours. Je peux me permettre de donner la personne, c'est le professeur Causon à Lyon, qui lui m'a suivi sur vraiment toutes les années de fibromyalgie. Professeur Causon m'explique des choses sur l'impact de stress, sur tout ça, que je ne suis pas prête à entendre, en fait. Voilà, à ce moment-là, je le rejette. Ce qu'il m'explique, je le rejette. Il me donne des conseils alimentaires, etc., etc. Et une des premières choses qui m'a beaucoup aidée, c'est que le papa de mes enfants, bon, on n'avait pas encore, mais a vraiment jamais fait preuve de scepticisme, a joué le jeu des doubles menus. Voilà, j'ai été accompagnée et je suis que trop bien placée pour savoir que c'est pas toujours le cas au sein du foyer. Donc déjà pour moi il y a eu ça, c'est-à-dire que j'avais pas à mener la bataille de si je suis vraiment malade, je ne te mens pas, je ne suis pas folle. Ça déjà je l'ai pas eu. Donc il y a eu ça. 1 an et demi après mon diagnostic de fibromyalgie, ma maman reçoit le même. Et là je me dis non. On m'avait dit que ce n'était pas héréditaire. Qu'est-ce qui se passe? Premier point. Deuxième point, c'est je sais le quotidien qu'elle va avoir maintenant. Et là, dans ma tête, c'est juste pas acceptable, en fait. Tu vois, dans mon souvenir, je l'accepte moins bien que ma propre situation, bizarrement. Ça me peine que ma maman puisse. Voilà. C'était si fort chez ma maman qu'au départ, c'est un diagnostic de sclérose en plaques qu'elle reçoit. Donc, pour te situer un petit peu. Après, ils sont revenus en arrière, ils se sont rendus compte qu'elle sclérosait pas. Donc, diagnostic de ma maman. Moi, dans l'intervalle, j'avais vu les longueurs d'ordonnance qu'on me suggérait. J'avais déjà pris pas mal de choses hein, sur mon adolescence pour la mononucléose et tout. J'ai pas voulu. C'est quelque chose que je voulais plus infliger à mon organisme. C'était peut-être une des premières décisions, tu vois, un des premiers petits virages médical que je fais. Je le refuse. Je le refuse. Pour autant, je souffre. Pour autant, je dors plus. Pour autant, mon intestin ne répond plus normalement. Donc, je me tourne vers la phytothérapie. J'apprends comment remplacer au mieux ce qu'on me demande de prendre en chimie. Ça a été la première chose. Quand maman reçoit son diagnostic, la deuxième chose, c'est je veux comprendre. Et là, je suis devenue boulimique des livres que j'ai pu trouver, des études médicales. J'ai le bonheur de pouvoir le lire en anglais. Donc, j'ai vraiment tapé dans tout le francophone et l'anglophone que j'ai trouvé. J'ai une collection à la maison, t'imagines même pas. Et j'apprends. Et j'apprends. Et ça a duré très longtemps, par contre. Je suis devenue vraiment une espèce de petite bibliothèque, une source d'information sur la fibromyalgie. Et la phytothérapie va me suivre depuis le départ. Au fur et à mesure, je vais introduire aussi les huiles essentielles. Sans savoir que j'étais en train de le faire, je vais intégrer de l'olfactothérapie. Juste parce que ça m'inspire, tu vois, je trouve que ça marche sur moi. Donc, les premières étapes, ça va être ça. Et puis, les années se passent. Moi, je reprends une vie professionnelle malgré tout, ce qui m'avait été dit au départ. Je reprends une vie professionnelle au sein de la grande distribution. Donc, autant te dire que physiquement, ça y allait. J'ai fait le choix, et ça, c'est très, très personnel. J'avais fait le choix à l'époque, moi, de ne pas en parler. Ce qui implique que tu ne le montres pas, dans la mesure du possible. C'est un petit peu l'avantage qu'on peut trouver à l'aspect invisible de la maladie, c'est que ce choix-là, tant qu'on est en mesure de le faire, on peut le faire. Donc j'avais décidé que. Je te promets que j'ai jamais autant pleuré dans ma voiture que mes 7 années en distribution. C'était vraiment
Attends,
ma zone
moi
de
je sens.
défoulement. Parce que tu peux pas rentrer non plus au sein de ton foyer, même avec toute la compréhension de la personne qui partage ta vie, tu peux pas rentrer au sein de ton foyer et toujours dire, en tout cas moi je ne le pouvais pas, toujours dire j'ai mal là, 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 je suis encore épuisée, si ça. Donc, ma voiture était mon espace. Entre-temps, j'ai aussi eu mes enfants, finalement. Mes deux petits garçons, à 2 ans d'intervalle. Donc, il n'y avait pas eu, finalement, de contexte de ménopause précoce. Ça n'était pas intervenu. Et tant que ces années-là passent, je suis toujours sur mes lectures. Je comprends des choses. J'emmagasine, en fait. Je consomme des quantités de phytothérapie assez impressionnantes, je ne cache pas. À tel point que quand je tombe enceinte, pharmacovigilance me dit non, en fait, on va arrêter parce que ce que vous prenez, ben, ce sont pas des plantes, c'est ce qui a inspiré notre chimie, hein, donc
Oui, parce que
pharmacovigilance me suspend tout.
est-ce que tu as été accompagnée justement pour la phyto, tout ce qui est huile essentielle? Est-ce que tu as été guidée au départ ou pas du tout?
Alors vraiment en mode autodidacte, donc tout ce que je pouvais trouver, j'ai plusieurs livres, je suis très très libre, vraiment. Donc j'ai plusieurs livres qui explique, plusieurs livres aussi qui attribuent les plantes selon les mots. Ça, j'ai pas mal aussi. Et puis, on peut pas parler de formation, j'ai fait des initiations en ligne. D'accord? Rien de diplômant, rien de certifiant. C'était pas mon objectif. Ce que je voulais, c'était savoir comment je pouvais adoucir, moi, mon quotidien, en fait. Et celui de ma maman par le même temps. Avec elle, je partageais tout ça. Puis, les années se passent comme ça, et là intervient un deuil familial. Je perds un de mes frères. Donc, maman perd un de ses fils. Et là, notre entourage se dit, ça va faire exploser la fibromyalgie. Et ben, aujourd'hui, je le considère comme le cadeau de mon frère en partant. Quand mon frère est parti, il a laissé malheureusement derrière lui une petite puce blondinette de 5 ans. Elle ne le verra plus, il ne la verra pas grandir. Et dans ma tête, c'est ça en fait que je me suis dit. Il verra plus sa puce. Moi, je suis là avec mes 2 enfants. Alors, je suis malade, mais je suis là. Et je ne pourrais pas te mettre beaucoup de mots dessus, mais dans ma tête, c'est une explosion, c'est un tremplin. Il a fait tout ce qu'il a fait pendant ma jeunesse, il m'a botté les fesses encore une fois. Et là, je suis rentrée à l'action. Là, j'ai réalisé que je connaissais plein de choses, mais que je n'utilisais presque rien. Et j'ai pris un énorme virage, probablement un des plus gros.
Ouais, donc là, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions que tu entreprends à ce moment-là?
À ce moment-là, je décide de commencer ma bataille pour la reconnaissance de la fibromyalgie en tant que maladie. Et pour faire ça, je choisis le sport, parce que mon frère était pompier, athlète, et ça résonne chez moi. J'avais besoin de ça pour mon deuil, et j'associe très très vite. L'exercice de mon deuil, enfin l'exercice, mon deuil via l'exercice, pardon, avec la cause que j'ai envie de mener. Quand je parle au médecin que je veux me remettre sur une activité plus marquée, tout ça, j'ai gardé un fond d'activité physique tout le temps parce que c'est ma soupape, hein, j'ai besoin de ça. Mais là, si tu veux, je passais un cap un petit peu. Et on me dit, mais vous savez, vous devriez arrêter le sport parce que vous provoquez vos douleurs. Ce qui, entre toi et moi, je considère être le plus mauvais conseil qu'on m'ait donné par rapport à la fibromyalgie. Et comme j'aime pas bien qu'on me dise que je suis pas capable de faire quelque chose, je m'inscris à du CrossFit.
Ah oui, c'est pas n'importe quelle
Voilà.
activité physique.
Alors, pourquoi je choisis le CrossFit? C'est parce que quand on perd mon frère, je découvre un réseau de courses d'obstacles à pied, format parcours du combattant. Et là, je me dis, il aurait adoré. Je veux en faire une pour lui. Ça a été ça, en fait, mon chemin de deuil. Ça a été cette inscription, cet objectif. Donc, je m'inscris sur un coup de tête, hein, je te promets. Je découvre les courses, une semaine après, j'étais inscrite. Et là, je me repositionne et je me dis, mais attends, tu viens d'avoir deux enfants, tu as une fibro, tu fais plus de sport à proprement parler. Tu vas peut-être galérer un peu, en fait, en vrai. Donc, je me renseigne comment on prépare une course de ce genre-là et le CrossFit. Je fais OK, soit. Je me présente en salle de CrossFit et j'explique au gars. Je lui dis, je viens d'avoir deux enfants, j'ai une fibromyalgie, j'ai mal partout, mes articulations sont super douloureuses et je fais telle course dans 6 mois, il faut me préparer. Et là, il me dit, ah OK. OK. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait et c'est une équipe formidable qui s'est super bien adaptée à moi. À titre d'exemple, ils étaient capables de me dire, non, non, aujourd'hui tu vas très mal, je ne t'entraîne pas, t'en vas. Donc, ils m'ont vraiment, vraiment prise sous leur aile.
On était bien
Donc, ça a
tombé.
été ça, la première action, vraiment la bataille de la reconnaissance. Et depuis, je cours hein, toujours ces courses-là. Je les fais toujours et je les fais floquer avec le nœud qui est propre à la fibromyalgie.
Ouais, génial.
Et mes enfants aussi, d'ailleurs. Ils font partie du mouvement.
C'est super.
Donc,
Bravo.
voilà, il se passe ça. À ce moment-là, je ressens aussi le besoin de me réconcilier avec moi parce que je te cache pas que j'ai développé beaucoup de culpabilité d'être une maman malade. Ça a été compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à accepter que je l'ai portée très peu au bras. Beaucoup de mal à accepter que j'avais des mouvements de retrait quand il me sollicitait en m'attrapant, comme tous les petits, tu vois. Ces choses-là, pour moi, c'était très compliqué. Je faisais des céphalées énormes où je disparaissais 3 jours dans ma chambre. Il me fallait du noir et du silence. Enfin, ça a été, voilà. D'où la remise à niveau quand je me suis dit, OK, je suis malade, mais je suis là, en fait. Et donc, ma démarche qui a suivi, ça a été, je veux me réconcilier avec moi. Il y a des choses, voilà, qui se sont passées dans ma vie. J'ai connu certains traumatismes avant tout ça, pendant mes périodes de maladie, etc. Et je me suis, voilà, j'ai eu envie de m'occuper de tout ça. Et le chemin que j'ai choisi, moi, c'était le développement personnel.
Ok.
Donc, je me remets sur une activité sportive assez intensive et je rentre dans un circuit de développement personnel où je découvre les bienfaits de la méditation, où je découvre une chose sur laquelle j'étais très sceptique parce qu'on avait un livre là-dessus à la maison que je n'avais jamais ouvert, La puissance de la pensée positive. Je découvre tout cet univers-là, spirituel, neurologique, tout ça, et là, je tombe dedans à 3000%. J'adore ça. Je mets en place tout un tas de choses. Méditation 2 fois par jour, tu vois, tout, la pensée positive, revaloriser ma propre image, voilà, tout ça. Oublie pas qu'en même temps, je fais mon chemin de deuil. Donc, tous ces éléments-là sont hyper efficaces aussi dans ce chemin-là pour moi à ce moment-là. Et puis voilà, tout ça, ça se met en place. Et je me rends compte au fil de l'année, là, on en est à 2019, le décès de mon frère, c'était début 2018. On en est à 2019 et là, je me rends compte, mais ça fait X jours, en fait, je dors. Et ce qui est dingue, c'est que j'étais tellement en recherche de faire disparaître mes symptômes, quand ils ont commencé à s'atténuer, je ne me suis même pas rendu compte tout de suite.
Incroyable.
Mais ouais, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et voilà, je fais le constat, je me dis, mais dis donc, à cette hanche, j'ai plus mal, mais dis donc, et au fur et à mesure, ça se calme, en fait. L'olfactothérapie me permet d'endiguer les crises qui se présentent. Donc, ça, génial. Voilà, je fais le constat, ça fonctionne. J'en arrive à un point où il ne me reste pas grand-chose en termes de symptômes. Je deviens pratiquement asymptomatique. Et je me dis, je fais la démarche écrite de ce que je suis en train de faire avec toi. Je me dis, attends, qu'est-ce qui a changé? Je fais, je fais, je fais. Une fois que j'ai ça dans les mains, je vais voir ma maman. Je lui dis, est-ce que tu veux essayer? Ma maman et moi, on va travailler ensemble pendant 9 mois. On va se faire mon tout premier accompagnement, bêta testeuse, tu vois, dans l'œuf. Toutes les semaines, pendant 9 mois, maman et moi, on travaille sur son état de fibromyalgie. qu'on va réussir à faire reculer.
Ah, super.
Et là, c'est un autre déclic pour moi. Je me dis, mais ça a fonctionné sur moi, ça a fonctionné sur maman en partie. Je me rends compte que je ne peux pas faire du copier-coller. Il a fallu qu'on adapte à la vie, aux chemins, aux croyances, aux valeurs de maman. Il n'était pas dans une démarche de spiritualité, mais vraiment pas. Elle me disait souvent, mais tu crois à ça, toi? Tu crois à ça, toi? Donc, j'apprends qu'il faut que je m'adapte, que ma feuille, elle est bien sympa, mais que je ne peux pas la distribuer comme ça. Donc, nouvelle étape, je me forme au coaching. Je me forme au coaching mental, je me forme à la PNL, coaching santé-bien-être. Voilà, là, j'obtiens les certifs pour être sûre. Ça peut être professionnalisé, ça peut être... Et je décide de créer des films, la fibromyalgie en 2020.
Waouh, quel parcours. Et tout ça en travaillant en parallèle ou pas?
Alors, quand mon deuxième enfant est arrivé, j'avais 33 ans et j'ai pris le parental de 2 ans. Lui
D'accord.
aussi, il a commencé sa jeune vie avec des problèmes respiratoires importants. Il a fait des navettes à l'hôpital, des choses comme ça. Donc, le parental était beaucoup plus facile pour gérer toute cette situation-là. Donc, je suis en création d'entreprise, en parental. Je ne vais plus tous les jours en grande distribution, en tout cas. Et je suis dans ma démarche de création d'entreprise plutôt.
Et oui, et donc là, quand est-ce que ça remonte, là, ton dernier examen pour la fibro?
Juillet 2022, c'est là que le professeur Causon me déclare officiellement en rémission, en m'expliquant vous n'avez plus les symptômes, en fait. On ne peut plus cocher les cases des symptômes de fibromyalgie. Donc attention, je le ressouligne, hein, je me permets, rémission, parce qu'on est sur un caractère chronique, avec aujourd'hui pas de traitement avéré. Ce qui veut dire, et c'est la mise en garde que j'ai reçue ce jour-là, qu'il ne pouvait pas m'assurer que si je me faisais rattraper par tous les contextes qui m'avaient emmené à ça, potentiellement, je pouvais retomber. La bonne nouvelle, c'est que la vie m'a offert d'autres défis et d'autres challenges et obstacles depuis, que je vois comme des mises à l'épreuve, en fait, de tout ça, des mises à l'épreuve de ma rémission. Parce que depuis, j'ai vécu un cambriolage, par exemple, ce qui est déjà assez impactant, qui n'a pas fait de retour de la fibromyalgie. Et ça fait aussi un petit peu, à quelque part, une mise à l'épreuve de tous les outils que je possède, parce que c'est sur moi que je les utilise dès que nécessaire. Donc, voilà, les obstacles qui se présentent aujourd'hui, ce n'est pas pour autant que j'en aurai plus, ce n'est pas pour autant qu'ils me font rire. Par contre, je suis mieux outillée aujourd'hui.
Tu as vraiment un très beau parcours et bravo pour ça parce que tu as été extrêmement courageuse. Tu n'as pas réfléchi, tu as eu ce... En fait, l'épreuve de ton frère a été vraiment le point pour toi de création de résilience.
Contre toute attente, j'ai envie de te dire. Contre toute attente.
Et oui. Alors que tu aurais pu justement plonger, oui.
Ouais. Il était beaucoup trop jeune, hein. C'était pas dans l'ordre des choses, c'était pas. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon cœur et de la manière que j'en parle, je parle d'un cadeau de Sylvain envers moi. Je le vis comme ça,
beau.
Profondément.
Mais vraiment, ton parcours est ultra inspirant. Merci pour ça parce que ça fait du bien d'entendre ce type de témoignage, même si tu en as bavé depuis ton adolescence. Mais donc, quelle a été la réaction de ce professeur quand il a justement vu que tu étais en rémission? Parce que c'est pas courant.
C'est pas courant. Lui, c'est bien parce que dans le nombre d'années où il m'a suivi, au fur et à mesure, j'ai été capable d'entendre ce qu'il m'expliquait depuis le départ. Sur l'état de stress, sur l'impact intestinal, toutes ces choses-là auxquelles j'étais pas réceptive. Il m'a vu évoluer aussi. Et voilà, il me l'a dit lui aussi, effectivement, qu'il a trop peu de cas qui arrivent à se rétablir et certains s'en rapprochent. Donc, il est toujours, il a été vraiment très content de ça. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de donner un certain nombre d'interviews presse depuis. Je les lui envoie à chaque fois. C'est vraiment
une source d'inspiration. Oui.
Ouais, puis il fait partie du parcours. C'est-à-dire que sans sa vision à lui, est-ce que j'y serais peut-être arrivée quand même, ou peut-être encore. Avec plus de temps, tu vois. Déjà, là, quand je te parle du diagnostic à ma rémission, on parle de 2011 à 2022. Donc, est-ce qu'avec un autre suivi, ça aurait été différent? Est-ce qu'avec d'autres épreuves de vie, ça aurait été différent? Je ne referai pas l'histoire, mais c'est probable.
Mais tu en as fait du chemin.
Il fallait.
Et oui, toujours pour être. En tout cas, c'est vrai que plus on travaille sur soi, et c'est ce que tu démontres, plus on apprend à mieux se connaître, à aller visiter toutes les parts de soi, même si c'est pas agréable, ça peut être vraiment inconfortable.
Il y a des choses dures à faire. Il y a des
C'est
choses dures.
ça.
D'aller regarder mes traumas au fond des yeux, quoi. Ça a été difficile, mais libérateur.
Et voilà, c'est ça. Ça amène à ce contexte de rémission où tu en es aujourd'hui.
Et c'est pour ça que la méthode que j'évoquais au tout départ, c'est vraiment une méthode basée sur de l'introspection. On va aller travailler tout l'émotionnel, on va aller travailler le physiologique, hein, bien sûr, on en a besoin, mais on va vraiment faire de l'introspection. J'ai fait du soulagement émotionnel des traumas, j'ai fait une de mes spécialités. Mon expérience d'accompagnante, ça fait 3 ans du coup maintenant, un peu plus. Mon expérience m'a montré que la grande majorité des personnes atteintes de fibromyalgie sont des polytraumatisées. Donc j'ai vraiment intégré ça et surtout le comment on décristallise en fait. Donc entre le chemin d'introspection, cette gestion traumatique émotionnelle et ben qu'on est en train, ce dont on est en train de parler. La gratitude intervient beaucoup dans la méthode, le pardon, la résilience, le lâcher prise. Je t'ai fait un espèce de combo. C'est pour ça que ça dure plusieurs mois, hein.
Et c'est
Mais
important.
voilà, au même titre qu'il y a des personnes qui ont trouvé beaucoup d'apaisement, voire de la libération par la sophrologie ou la naturopathie, vont devenir des praticiens de ces soins-là et diffuser ces méthodes-là. Mon chemin à moi ayant été le développement personnel, la spiritualité, c'est ce que j'ai construit derrière. J'ai construit ce que je n'ai pas trouvé pour m'accompagner à l'époque.
Ouais, en tout cas, bravo. C'est très
Merci beaucoup.
beau. Quel conseil donnerais-tu justement à ceux qui cohabitent aujourd'hui avec la fibromyalgie?
Est-ce que je peux en donner deux?
Ah bah oui, tu peux.
Le premier, ce serait vraiment l'espoir à cultiver, quand bien même on est entouré de scepticisme. Parce qu'il faut quand même le dire, on est entouré de beaucoup de scepticisme encore aujourd'hui. Pas tout le temps, pas partout, hein. Mais il reste du scepticisme, ne serait-ce que sur la véracité de cette maladie. Donc, garder cet espoir là-dessus et l'espoir sur le fait que des rémissions sont possibles, puisqu'il y en a déjà eu. La deuxième chose, qui est une chose pour laquelle je me bat beaucoup. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube dédiée à ça. C'est vraiment favoriser le pluridisciplinaire. Il y a des personnes qui vont avoir besoin que ce soit très allopathique. Il y a des personnes qui vont avoir besoin que ce soit très énergétique. Il y a des personnes qui vont faire des mélanges. Il y en a qui vont aller chercher. En fait, c'est peu importe. Le conseil que je donne toujours quand on me le demande, c'est aller regarder ce qui résonne pour vous. Parce que tous les soins ne sont pas faits pour tout le monde. Le mien compris, hein, attention. Allez regarder ce qui résonne pour vous et surtout, aujourd'hui, il n'y a pas un soin ou une thérapie unique qui permette une délivrance de la fibromyalgie. Il faut monter un pluridisciplinaire. Et pluridisciplinaire, ça peut être deux disciplines, hein. Ça marche aussi. Des fois, il y a besoin de plus. Puis quand il y a besoin de chimie, on n'est pas obligé de mal le vivre non plus. Ça peut être très important. C'est trop individuel, la fibromyalgie, pour se permettre du jugement.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Comment on peut te contacter, Nadège?
Alors, le plus facile pour me trouver, c'est sur Internet avec l'entité Défions la fibromyalgie. J'ai tout appelé pareil. Il y a mon site web que tu peux trouver sur Internet sous ce nom-là, ma chaîne YouTube dont je te parlais, où j'ai des invités tels qu'on est en train de le faire, toi et moi, tu vois. Souvent, c'est moi qui le fais dans l'autre sens. Ils sont déjà 24 à être venus, donc il y a déjà un petit peu de matière, tu vois. Ou Instagram.
Parfait. Merci pour tous tes partages et
Merci à
merci de
toi.
nous avoir en tout cas inspiré, donné beaucoup d'espoir parce que vraiment ton parcours est très très inspirant et puis là on sent, ça te fait briller les yeux quand tu racontes toute ton histoire, c'est vraiment formidable, bravo pour ça et
Merci.
t'es vraiment une belle battante, une belle guerrière. En tout cas, merci pour cet échange, Nadège, je t'embrasse. Et
Moi
puis,
aussi.
on se tient au courant. À très bientôt.
Avec grand plaisir. J'ai été ravie d'être là.
Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent,
Je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabellesante.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto-immune. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.